voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre Jean-Paul Rapneau. Ce soir, de cap et d'épée.
Bonsoir, Jean-Paul Rapneau.
Bonsoir.
Ce soir, nous allons évoquer les deux films de votre œuvre qui ne reposent pas sur des scénarios originaux, des scénarios que vous avez vous-même imaginés, seul ou à plusieurs, puisque vous êtes
d'autres.
Généralement plusieurs. Mais nous allons nous pencher sur vos deux films qui sont des adaptations de grandes œuvres en l'espèce, puisqu'il s'agit de Cyrano de Bergerac et du Hussard sur le toit. Alors, on commence avec Cyrano de Bergerac, qui sort en 1990. C'est le film maudit César, donc celui de meilleur film et de meilleur réalisateur pour vous, de meilleur acteur pour Gérard Depardieu, de meilleure photographie pour Pierre Lhomme, de meilleure musique originale pour Jean-Claude Petit, de meilleur son pour Pierre Gamet et Dominique Hennequin, de meilleur montage pour Noël Boisson, de meilleur décor pour Ezio Frigerio, de meilleur costume pour Franca Squarcipiano.
Squarciapino, qui était d'ailleurs la femme de Ezio Frigerio, donc mari et femme de César.
Une affaire de famille. D'ailleurs, cette Franca qui a eu aussi l'Oscar pour la meilleure création de costume pour ce film.
Oui, alors son mari n'a pas eu les décors, donc ça a donné l'occasion d'une dispute.
Et aussi l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à Jacques Weber qui jouait le rôle de Guiche. Tout ça pour montrer que le cinéma, d'une part, est une grande famille et qu'un film est aussi une œuvre collective. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à adapter l'œuvre d'Edmond Rostand, vous qui disiez à propos d'un acteur qui ne vous séduisait qu'à moitié, mais il a un grand nez.
Ah oui, là, vous reparlez de cette histoire de la difficulté au départ de choisir un acteur pour mon premier film La Vie de Château. Et quand on me parlait de Philippe Noiret, extraordinaire acteur que j'ai adoré et que je pleure. Mais au départ, j'avais dit « Oh mais non, il a un trop grand nez », avais-je dit quand on m'en avait parlé. Ça ne m'a pas empêché, évidemment, de faire le film avec lui, plus tard.
Faire Cyrano.
Il faut dire que ce film, Cyrano de Bergerac, oui, c'est donc, dans mon cas, c'est le seul film qu'on m'ait proposé, enfin, qui soit venu d'ailleurs. C'est-à-dire que, jusqu'à ce moment-là, tout venait d'un désir de ma part. Mais là, je suis en train de travailler à cette époque-là sur autre chose, un film dont on ne va pas parler parce qu'il ne s'est pas tourné, qui devait s'appeler Chic et qui se passait dans l'univers de la mode. Et voilà qu'un matin, je travaille sur ce projet et le téléphone sonne et c'est mon agent, Jean-Louis Livy, très grand agent et très grand producteur ensuite, qui m'appelle et me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, ça va, comme tous les matins. Non, mais arrête tout. Il y a une proposition qu'on nous fait, très intéressante. Attends un peu, là. Peut-être que tu m'en reparles dans quelques jours. Non, c'est très important parce qu'il faut que tu répondes ce matin et même avant midi. Avant midi, mais il est 11h ou 10h30, je ne sais pas. Et alors, mais quelle proposition? Eh bien voilà, on te propose de tourner Cyrano de Bergerac. Mais voilà, la vie de Cyrano de Bergerac. Non, la pièce d'Edmond Rostand. Mais attends, pour la télévision, pour faire une captation, pour... Non, un film de cinéma. Oh là là, tout de suite, je dis, oh là, ça me paraît... Oh là là, pour le moment, là, je vois pas. Non, mais tu vois pas, mais enfin, il faut que tu répondes avant midi.
Quels étaient vos souvenirs de lecture d'enfant ou d'adolescent par rapport à cette pièce d'Edmond Rostand?
Quand je l'ai vu enfant, j'avais 9 ans. Encore les histoires de famille, c'est ma mère, là. Alors que mon père était prisonnier en Allemagne, qui un jour nous dit à ma sœur aînée et à moi, voilà, il faut quand même que vous voyez des choses au théâtre. Ici, à Auxerre, on n'en voit pas beaucoup. Donc, il y en a une qu'il faut absolument que vous voyez, c'est Cyrano de Bergerac. Donc, on prend le train, on va à Paris, on prend un vélo-taxi, c'est ce souvenir-là, pour aller à la Comédie-Française. Et je vois la pièce avec un acteur de la Comédie-Française qui s'appelait Denis Dinès, dans le rôle de Cyrano. Et bon, alors, je suis transporté. En rentrant dans notre ville, le soir, je commence à apprendre des tirades par cœur. Je me fais un déguisement de Cyrano, j'embête tout le monde avec cela. Et une fois encore, j'en joue des scènes devant ma famille, avec une épée que je trouve qui appartenait... Enfin bon, écoutez, ça faisait partie de l'histoire familiale, mais très ancienne. Mais quand on m'en parle tant d'années après pour le cinéma, mon réflexe, c'est qu'on est dans quelque chose de très poussiéreux. Il fallait garder, évidemment, les Alexandrins. Donc, faire un film en vert. Bon, alors, bref, ce jour-là, je dis, je vais y réfléchir. D'autant me dit Jean-Louis Lévy qu'il faut, dans ta réponse avant midi, que tu dises que si tu es intéressé, avec quel acteur voudrais-tu le faire ? Mais tu as une heure. Bon, et... alors, d'accord. Alors, on peut dire que c'est, en fait, Gaumont qui me propose cela. Après cela, j'ai compris pourquoi. Parce que les droits de la pièce, les droits d'auteur, les droits de la pièce venaient de tomber, comme on dit, dans le domaine public. Donc, les droits étaient libres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, se jouait à Paris, avec Jacques Weber, la version théâtrale, avec un grand succès, mis en scène par Savary. Bon, alors écoutez, je réfléchis une heure, je pense surtout à l'acteur, et là, depuis quelque temps, il se trouve que j'avais fait la connaissance de Gérard Depardieu quand il tournait à Rome le film de Bertolucci, 1900. On avait passé une soirée très, enfin avec beaucoup d'autres, mais enfin très rieuse, et surtout il était apparu là depuis peu dans les films de Truffaut, les deux films. Est-ce que Le Dernier Métro était déjà tourné ? Oui, je pense. En tout cas, La Femme d'à côté, que vous avez adoré. Surtout que j'y avais découvert, comme Truffaut lui-même, le Gérard Depardieu, dont on connaissait la grosse voix, la grande voix. Mais là, et là, on a découvert, avec, dans La Femme d'à côté, la petite voix. C'est-à-dire la voix de l'homme qui souffre, la voix d'enfant. Et en fait, entre 11h et midi, je crois qu'en fait, Gaumont ne me l'avait pas dit, mais aurait souhaité que je réponde avec Belmondo. Mais Belmondo, j'avais déjà tourné avec lui, mais surtout, le souvenir que j'avais, tout de suite, de la pièce vue, mais surtout relue, bon, c'est que c'est l'histoire d'un homme à la fois très fort et très faible.
Fragile.
Un homme fragile. Un homme blessé, de toute façon, par une blessure secrète. Et que donc il y avait la place pour le fanfaron, la grande voix, mais aussi pour l'homme qui pleure.
Et ce que Belmondo ne pouvait pas incarner, selon vous ?
Alors, il peut jouer beaucoup de choses, mais en tout cas l'homme qui souffre, ce n'est pas vraiment cela. Enfin, ce n'est pas là où il est le meilleur. Voilà. Bon. Mais je, rien contre lui. Pas un mot sur Jean-Paul. Bon. Mais pas un mot non plus sur Gérard. Donc voilà, j'ai répondu ça à midi. Ben, tu diras à nos amis de chez Gaumont, c'est-à-dire en vérité à Alain Poiret, à l'époque, que oui, je veux bien réfléchir, mais pour cela, il faudrait quand même que je travaille un peu sur la pièce. Quelques semaines, un mois. Dans un mois, je dirais si vraiment le cinéma peut s'en emparer, mais en tout cas, si on le fait, ce serait avec Depardieu. Et voilà que l'aventure a commencé là.
Et vous avez commencé à travailler vraiment sur la pièce, avec Jean-Claude Carrière tout de
non,
suite ?
Non, pas tout de suite. Alors justement, j'ai voulu tout de suite. Et à ce moment-là, on m'a dit non, mais alors attendez, là, on commence déjà à faire des dépenses, on ne va pas engager Carrière avant que vous ayez dit oui ou non. Donc j'ai fait une première étude seule, quoi.
Oui, parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'adapter la pièce dans sa totalité, ça aurait été beaucoup trop long. Il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de coupes, beaucoup de modifications d'Alexandrin.
Oui, et puis une sorte de, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai cherché à voir tout ce qui avait été tourné pour un écran avec l'œuvre de Rostand. Donc j'ai été à la Cinémathèque de Lausanne, parce que eux avaient tout, j'ai vu tout ce qui avait été tourné.
Et il y avait beaucoup de choses ?
Il y avait pas mal de choses quand même, il y a un film... avec Claude Dauphin, enfin tout se mélange parce que je n'ai rien trouvé de bon. Et effectivement, j'ai revu ça, la captation pour la télévision qui avait été faite avec Daniel Sorano dans le rôle dans les années en 60, et la France entière a été vissée devant sa télévision pour ça. Enfin, c'était la pièce. Et puis le film avec José Ferrer, le film américain, où d'ailleurs José Ferrer, bizarrement, a eu l'Oscar du meilleur acteur. Bon, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'immobilité à laquelle contraignait cette pièce pour le cinéma. C'est-à-dire que pour dire tous ces vers, toutes ces tirades, devant souvent des rangées ou des cercles de spectateurs, de figurants dans la pièce ou dans les films, eh bien, ça contraignait à l'immobilité, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est le statisme de ces filmages, sauf dans un film muet d'Augusto Genina, donc avant l'invention du parlant, avec je ne sais quel grand acteur italien des années 20, et qui, comme il n'y avait pas le texte, lui, avait remplacé ça, et il n'y avait pas le choix, par un mouvement perpétuel. Ça n'arrête pas de courir. Et notamment, au début du Cyrano, il a vite quitté le théâtre, qui est le décor du premier acte, pour aller dehors, sur la place, à la sortie du théâtre, et y créer, dans la lumière des flambeaux, au milieu de la fumée, dans le vent qui souffle, toute une série de mouvements chorégraphiques qui étaient formidables, dans le silence total.
Ouais, le cinéaste du mouvement que vous êtes, évidemment.
Là, ben, je me suis dit, non, mais ça, franchement, je crois que c'est Genina, l'homme du cinéma muet, qui a entraîné ma décision. Et d'ailleurs, dans le film, il y a ça. Il y a une partie qui est dans le théâtre, mais très vite, ce qui n'est pas dans la pièce, on sort dehors. Le duel se déroule dehors, alors que ça n'est pas le cas dans la pièce. Enfin, il faut voir le film. Peut-être vous l'avez vu.
Il m'est arrivé de le voir. Grâce, en tout cas, soit rendue à Genina. Et donc, vous vous lancez dans cette aventure. Vous reprenez la pièce avec Jean-Claude Carrière.
Oui, oui.
Un long travail.
Oui, oui. Alors, attendez, alors déjà, il y a quand même encore des épisodes. C'est que, donc, oui, il faut parler du petit enfant que j'étais quand j'ai vu la pièce, mais aussi, c'était ma remarque dès le départ, c'est que qu'est-ce que le cinéma a à voir là-dedans? Comment il peut s'introduire là-dedans? Comment tirer la pièce vers le cinéma? Et je gardais ce souvenir du statisme général de la pièce à cause de ces, je sais pas combien il y a de vers, je crois, presque 2000, non? Ou peut-être plus d'ailleurs, enfin beaucoup. Et surtout des tirades qui n'en finissent pas. Mais moi, je cherchais un moyen d'y introduire un mouvement permanent. Et c'est en me souvenant, au fond, dans ce mois de travail, de ce voyage à Paris, le vélo-taxi, moi voyant la pièce. Alors, il n'y a pas ça dans le texte de Rostand. Il y a, à un moment donné, un personnage qu'on appelle le jeune homme. Et je dis, mais au fond, on peut remplacer le jeune homme par un enfant, avec son père. Et je me suis dit, ça pourrait être ça. C'est raconté comme un enfant qui va pour la première fois au théâtre, emmené par son père, dans une petite charrette, une sorte de vélo-taxi sans vélo, quoi. Et au fond, on cherche toujours souvent dans un scénario ou dans un film, c'est raconté par qui, quoi.
D'où tu parles?
Ah oui, c'est le fameux d'où tu parles, oui. Et ben là, c'est pour moi, je me suis dit, mais au fond, c'est l'enfant qui raconte. Et là, c'est la première image du film. Le visage de ce petit garçon, Anatole de Lalande, qui maintenant
doit être beaucoup plus grand.
Est beaucoup plus grand, qui est resté ami avec une petite fille qui est aussi dans le film.
Qui est Ludivine Sagnier.
Qui est Ludivine Sagnier, oui. Et j'ai rencontré il y a quelque temps Ludivine, et je lui ai dit, mais alors comment va Anatole? Ils correspondent, mais ils sont évidemment grands. Et alors ça commence par le visage d'Anatole, et puis ensuite, c'est une idée qui est venue très vite avec Jean-Claude Carrière, le cher Jean-Claude dont je vais parler, c'est qu'il faudrait qu'on retrouve ce petit garçon tout au long de l'histoire. Alors effectivement, dans le film, on le voit le jour où Cyrano part pour la guerre, il est réveillé par les tambours, on le voit derrière une fenêtre, je ne sais pas si tu te souviens de cela. Mais on cherchait aussi à le voir plus tard, mais plus tard, c'est 15 ans, c'est dans la pièce 15 ans plus tard. Alors, on dit, mais comment reconnaître un enfant 15 ans plus tard?
Pas simple.
Bon. Et Jean-Claude disait, ben oui, il pourrait par exemple être bossu. Donc dès qu'on verrait un bossu dans le film, on dit, c'est l'enfant. Non, mais ça n'a pas été gardé. Bon. Donc voilà. Mais surtout, alors, voilà que je suis revenu voir nos amis de Gaumont, enfin Alain Poiret, un mois plus tard, il a lu une première version. Et puis tout de suite, ça l'a frappé de voir que j'avais rajouté d'autres choses. 5 lieux, 5 décors dans la pièce. Je voulais voir cette histoire se dérouler dans Paris. Qui habite où? Enfin, le mouvement. Mais pas seulement cela. Pour échapper à l'univers du théâtre, et pour mon goût personnel, moi je disais à Alain, mais il faut que ça soit... Déjà, il faut que ça soit somptueux.
Alors, donc cher.
Donc cher. Enfin, lui a évidemment traduit tout de suite somptueux. Et j'ai ajouté, non, c'est de rien, ça a fini par arrêter la conversation assez vite. Cette année-là était sorti le film de Miloš Forman, Amadeus. Ce film superbe.
Somptueux.
Somptueux, c'est le cas de le dire. Dans mon enthousiasme, je dis à Poiré, ben, il faudrait que ça soit au moins Amadeus, même peut-être plus, parce qu'il y a la guerre en plus.
Et pour tout. Et dire, c'est évanoui.
Non, mais 8 jours plus tard, il m'a fait dire que non, eux renonçaient au projet.
Vous avez dû trouver un autre producteur, donc.
Oui, c'est ça. Ça s'est arrêté. Voilà. Par contre, Depardieu, lui, a été déçu. Quand je suis venu le voir, il tournait le film de Maurice Pial, La Police. Alors, et j'étais le voir sur le tournage, je me souviens. Et il me dit, je lui dis, mais alors, peut-être l'année prochaine. Ah ben non, l'année prochaine, là, je peux plus. Là, pourtant, j'étais libre. J'avais commencé à apprendre. Ah non, attends, n'apprends pas. On est en train de travailler. Alors, bref. Ça s'est arrêté. Il a fait d'autres choses. Moi, je suis, je crois, reparti sur mon histoire de l'univers de la mode, qui devait se faire avec Isabel Adjani, Chic. On n'a pas parlé de ça, mais il faudra un jour que je raconte que il y a plus de films que j'ai abandonnés ou que je n'ai pas pu tourner pour certaines raisons. Il y a plus de films que je n'ai pas fait que de films que j'ai fait.
En tout cas, on en parlera demain.
On en parlera peut-être demain. Mais alors, Gérard et moi faisions autre chose, voilà qui est apparu un nouveau producteur pour Hachette, qui possédait Europe 1 et qui avait créé une maison de production de cinéma, alors qu'il s'appelait Hachette Première. Et c'est René Kletman qui était apparu avec quelques films, dont l'un avec Gérard Depardieu, Tenue de soirée. Il tourne avec Bertrand Blier. Alors je crois que c'est 2 années plus tard. Et donc, je rappelle Jean-Claude Carrière et on se met au travail, voilà. On se met au travail. Alors là, effectivement, la pièce fait 3h15, quand si on la joue entièrement, 3h30 même. Mais le film, on est arrivé à 2h10 ou 2h13, quelque chose comme ça. Mais c'est pas tant ça, c'est pas tant couper des verres. Et c'est ça qui est formidable dans ce que Jean-Claude a fait, c'est que il y a des parties. Ce sont des parties qu'on a enlevées qui nous paraissaient justement trop apporter encore plus de statisme, plus d'immobilité qu'il y en a dans la pièce. Et c'est de raccorder des morceaux entre eux, des morceaux tous en vers. Et donc d'écrire des alexandrins à la Edmond Rostand, ce qu'il a magnifiquement fait. Il y a des scènes de Jean-Claude qui sont, je trouve, meilleures que celles d'Edmond Rostand. En tout cas, ça a été très passionnant à faire, voilà.
Les alexandrins, est-ce qu'ils participent aussi du rythme et du mouvement que vous souhaitez toujours donner à un film? Est-ce qu'ils sont un peu cœur battant?
Oui, c'est ça dont je me suis aperçu petit à petit. Moi qui avais peur d'une grosse pâtisserie poussiéreuse, eh ben non, il y a quelque chose, effectivement, comme vous dites, quoi, qui bat. Et ce sont les alexandrins, tac, 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 tac. Enfin, il y a un rythme, et moi, c'est pas tant la vitesse qui m'intéresse, c'est le rythme. Le rythme n'est pas forcément la vitesse, ni surtout la précipitation.
À propos de Cyrano, vous avez dit « Je veux faire un opéra verbal, une comédie musicale sans chanson ».
Ben oui, c'est ça. On a hésité d'ailleurs à... J'ai pensé à un moment qu'il fallait enregistrer le texte, comme si c'était la musique, et ensuite tourner avec un playback. Et les acteurs auraient fait semblant de dire ce texte, comme on fait dans les comédies musicales, quand on tourne des chansons compliquées, on ne veut pas les rechanter en direct avec le bruit du travelling. Donc on envoie sur le plateau la musique et on fait semblant.
Vous avez abandonné cette idée, finalement?
Ah oui, bien sûr. J'avais dit aux gens de chez Gaumont qu'il fallait que ça soit somptueux comme Amadeus. Mais finalement, quand Hachette... Donc René Kletman a décidé de produire le film. Le problème du prix était là. Quand ils ont commencé à chiffrer, ils ont vu que ça allait être terrible, notamment à cause de la construction de tous ces décors.
D'où le tournage qui s'est déroulé en Hongrie, majoritairement.
Voilà. Oui, il se trouve que dans les mois précédents, j'avais été tourner une publicité dans les studios de Budapest, que j'ai trouvé qu'effectivement il y avait la possibilité de faire là-bas, que le cinéma hongrois était très très bon à l'époque, des très bons techniciens, et on a tourné une bonne partie et grâce à ce tournage en Hongrie, le coût du film a pu être abaissé, et Et on a tourné le tiers du film là-bas, à Budapest.
Et la somptuosité de ce film doit aussi beaucoup, je pense, à Pierre Lhomme, qui est le directeur de la photo.
Oui. Et ces disputes immenses avec nos deux amis italiens, notamment Ezio Frigerio, le décorateur, qui voulait toujours plus, qui voulait toujours des décors plus grands. Et Pierre Lhomme disant, mais attends, ça va être trop grand, j'ai pas assez de projecteurs pour éclairer tout ça. Donc, il se battait pour qu'on diminue les décors. Mais, pour reparler de Citizen Kane, on disait que Orson Welles, quand c'était le premier film, quand il a découvert les décors qui étaient construits sur les studios d'Hollywood pour son film, il a l'impression de découvrir son premier train électrique. Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue, moi, en découvrant dans les studios de Ma Film, c'était le nom, la société hongroise, les décors construits, notamment le théâtre, qui était absolument magnifique. Plus 400 figurants habillés par Franck Caspar Chapineau. Donc, j'ai découvert ça, l'art de manœuvrer les foules, le général à la manœuvre. J'ai pris goût à ça.
Oui, c'est oui. Ça qui vous a donné envie de refaire ça. Vous en avez parlé hier dans Bon Voyage.
Dans Bon Voyage, dans l'hôtel, oui.
Splendide
avec l'hôtel, oui, l'hôtel.
Je voudrais quand même qu'on prenne un peu le temps de parler aussi de votre autre film de cap et d'épée, si on peut dire, et votre autre adaptation d'une grande œuvre, qui est donc Le Hussard sur le toit de Giono, que vous faites pratiquement dans la foulée de Cyrano de Bergerac et du succès de Cyrano.
Oui. En tout cas pour moi, mais pour d'autres, Pierre Lhomme par exemple aussi. Mais Gérard, je n'ai jamais su, mais je crois pas. Gérard, il avance, c'est un homme qui avance.
Vous parlez de Gérard?
Oui, de Gérard Depardieu, oui. Mais moi et Pierre Lhomme, on n'était pas morts de peur, mais la peur nous a étreints pendant tout le tournage. C'était trop lourd, trop cher, trop compliqué. Ça a duré un temps fou, un nombre de semaines inatteignable aujourd'hui pour de nos semaines de tournage. Mais je pense que justement, c'est cette peur qui nous a... La qualité du film est due à la peur que j'avais. Voilà, c'est au niveau de la peur. Et finalement, plus nous avancions dans le montage, plus nous allions vers la sortie, on a commencé à comprendre que le film était pas mal et pouvait peut-être atteindre le public. Ce qui a été le cas. Non, puisque,
près de 5 millions d'entrées, hein, 4 millions 8.
Oui, oui, c'est ça. Et puis ensuite vendu dans le monde entier, le tour du monde. Mais il y a eu cette première du film à Paris, au Normandie. Tout le monde en larmes, bien sûr. Mais le lendemain, je déjeune avec mon agent, qui avait changé à l'époque, cette fois-ci c'était enfin, le successeur de Jean-Louis Lévy, donc Bertrand de l'Abbé, le grand Bertrand de l'Abbé. J'aurais dit, mais alors, ça, hier soir c'était extraordinaire, mais alors là au fond, vous venez de prouver que vous qui prenez tant de temps pour préparer des films, là, vous venez de prouver que vous pouvez adapter n'importe quoi. C'est ce que j'entendais hier dans les gens qui, après le film, est-ce qu'il n'y a pas un autre livre? Vous obstinez à écrire vos scénarios, mais il n'y a pas un autre livre qui vous aurait... Et alors je lui réponds, le lendemain de la première de Cyrano, je lui réponds, ça c'est sûr que si j'apprenais aujourd'hui que les droits du livre de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, sont libres, je le tournerais tout de suite. Ah, alors, voilà. Alors, il n'en revient pas, il téléphone... pas dans le restaurant, mais presque, après le restaurant, il me rappelle une heure plus tard en disant, non, les droits ne sont pas libres. Alors, effectivement, un garçon qui s'appelle Édouard Niermans avait acquis les droits et essayé de préparer, d'écrire le film. Donc ça a retardé. Alors, je suis parti, je me suis à ce moment-là lancé sur Belle du Seigneur, un autre de mes livres favoris, qui m'est apparu d'ailleurs inadaptable. Alors là, il y a quand même des... D'ailleurs, ça a été tourné depuis, d'ailleurs, même je crois, déjà deux fois. Et non, alors Belle du Seigneur, selon moi, inadaptable. C'était pas le cas de Cyrano, mais ça n'était pas le cas non plus, je pense. Du Hussard sur le toit. Deux années passent. Deux années, encore une fois. C'est toujours... On parle en années quand on parle de ma carrière. Et deux années passent, et un jour, je reçois de nouveau un coup de fil. Alors Jean-Paul, alors Niermans ne fait pas le film, le Hussard sur le toit, donc les droits sont libres. Vous êtes toujours intéressé? Bah oui. Et voilà, on est parti sur ce Hussard sur le toit.
Voilà comment donc vous ferez le Hussard sur le toit, mais nous en parlons demain, puisque nous arrivons déjà, cher Jean-Paul Rapneau, à la fin de cet épisode. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Odile Conseil avec Jean-Paul Rapneau. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.